Sois le juge de ce que tu lis et ce que tu entends. Méfie-toi des politiciens, méfie-toi des savants spécialistes et des historiens de détail et des documentateurs hypnotisés par les marottes de cas particuliers. Bonsoir. Ma première réaction à la déclaration politique générale de Michel Barnier, je mentionnerai la déclaration d'un dirigeant de l'ancienne majorité qui a dit « Michel Barnier se prend facilement au jeu, il croit vraiment qu'il est Premier ministre. » Et en effet, il n'est pas Premier ministre. Il est l'expression de forces politiques internationales qui ont créé la situation dans laquelle il a été choisi pour les servir. Vous me direz que les institutions, le fonctionnement institutionnel a été respecté en France. C'est vrai, formellement, mais c'est faux en réalité. Julian Assange a bien démontré que, au sein de la politique française, l'immixtion des forces anglo-américaines, ou plutôt de l'oligarchie financière internationale, est constante. Et que ils détiennent de fait le pouvoir. Alors, regardons les choses de plus près. Dans sa déclaration, Michel Barnier place la politique internationale à la fin de sa présentation, comme si le plus grave n'était pas la menace d'une guerre nucléaire dans le monde, comme si le plus grave n'était pas ce qui se passe à Gaza, et en Cisjordanie, et au Liban, où toutes les règles de décence commune et de justice sont bafouées, où un crime contre l'humanité, un génocide est commis. Non. Michel Barnier aborde les questions concernant la France avec des paroles. Avec des paroles qui ne signifient rien, sauf qu'il manie le chantage de la dette. Et qu'au nom du chantage de la dette, il définit sa politique. Car discuter si on augmente les impôts, et il n'entend pas les augmenter ou pas beaucoup, ou si on réduit les dépenses, mais il entend les réduire d'environ 20 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est adapté à un ordre prédéfini ailleurs. Car si la France s'est mise dans cette situation de crise budgétaire, c'est qu'elle s'est adaptée à une règle du jeu international. C'est qu'elle s'est adaptée en bafouant progressivement, et puis un peu moins progressivement, les droits sociaux, la justice sociale. Et quand Michel Barnier nous parle de participation, qui est un mot auquel je tiens beaucoup, parce que je pense qu'il a une importance fondamentale, il entend donner quelques miettes aux travailleurs. Ça ne veut rien dire. Quand il parle de rétablir le travail, ça ne veut rien dire, puisque c'est le président de la République qui l'a choisi. Et ceux qui l'ont servi, qui ont créé la souffrance au travail, qui ont vendu l'industrie française à la découpe. Donc, Michel Barnier, si on peut dire, a parlé en l'air pour cacher ce que son gouvernement sera contraint de faire, qu'il le veuille ou pas. Et je pense qu'un sursaut est immédiatement nécessaire. Et je pense pas seulement, j'en éprouve profondément la nécessité. Car aujourd'hui, si l'on voit où nous mène sa politique, en Ukraine, avec l'accord d'ailleurs de toutes les autres forces politiques représentées au Parlement, en Ukraine, on continue à fournir des armes à Vladimir Zelensky, et on traite l'Ukraine comme si elle défendait nos libertés, alors que l'Ukraine est un pays où on a aboli les partis politiques d'opposition, suspendu les syndicats, et où règne la corruption la plus extrême et où une partie de la jeunesse a fui le pays car elle ne veut pas se battre. Et on est prêt, nous, à envoyer à la mort jusqu'au dernier des Ukrainiens. Il faut le dire, et il faut le dire clairement. Il faut dire aussi clairement que rien n'est dit sur le génocide qui se déroule à Gaza et qui s'étend à la Cisjordanie et maintenant au Liban. Où est la France ? C'est vrai, a dit Mathilde Panot. Mais elle ne propose rien, elle non plus. Mathilde Panot est intervenue et elle a formulé quelques critiques fortes. Les critiques sont justifiées. Mais que propose-t-on de ce côté-là, à part des promesses, pour mener une politique véritable d'indépendance nationale, qui soit une politique qui aille dans le sens de ce que font les BRICS, le Sud global, qui est notre chance. Et nous devrions faire partie. Il y a la conférence des BRICS qui se tiendra du 22 au 24 octobre à Kazan, au Tatarstan russe. Et là, nous devrions être. J'espère que certains parmi nous de Solidarité et Progrès pourront d'ailleurs y être. Et c'est là que se déroule le futur du monde s'il doit échapper à une confrontation généralisée, à ce que le général de Gaulle appelait un effondrement général de l'humanité. Le définissant dès les années 60 comme un risque, maintenant le risque, nous y sommes. Et conduit sur ce risque, les uns et les autres, Michel Barnier et ceux qui sont intervenus, pratiquement rien. Car ils ne sont pas dans la réalité. Ils ne savent pas ce qu'est la vérité. Et ceux qui savent l'évitent, la contournent, la bafouent, la violent, au lieu de reconnaître réellement ce qui se passe dans le monde. Pour notre part, nous nous battons pour qu'on rende justice au peuple russe et ukrainien, pour qu'il y ait une véritable politique de paix, pour que vienne l'heure des diplomates, pour que cesse l'heure des provocations. Nous sommes à un temps où les radars de détection russes de missiles intercontinentaux, ce qui n'a rien à voir avec la guerre directement, avec la guerre en Ukraine, est menacé. On cherche à aveugler une puissance nucléaire. Et en même temps, la Russie envisage de changer sa doctrine sur le nucléaire. Nous sommes au bord d'un conflit. Et on croit rêver à entendre tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont parlé de questions qui ne concernent pas ce qui se passe réellement dans le monde et ce qui se passe réellement dans notre pays. Car Michel Barnier, en parlant de participation, et j'y reviens, n'offre que des miettes. En parlant de travail, on se moque du monde avec ce qui a été fait. Et je pense aux déclarations de Gabriel Attal. Gabriel Attal, c'est comme Orwell, hein. Pour lui, ce qui est blanc est noir. Et il a dit, entre autres choses, qu'il fallait faire preuve de lucidité. Pour lui, la lucidité, l'exercice de la lucidité, c'est en fumée. Pour lui, parler de la cause du travail signifie réduire le coût du travail, c'est-à-dire l'austérité sociale. Quand à Marine Le Pen, elle-même, elle nous parle de l'immigration comme s'il s'agissait d'une menace, d'un phénomène spécifiquement français qu'on pourrait régler de cette façon. Eh bien non, l'immigration est liée au défaut de développement des pays, à la guerre qui s'y produit, et elle est liée à ce qui devient un système international de dictature à court terme du financier soutenu par des économies de guerre qui nous mènent tout droit à la guerre tout court. Eh bien, ces questions-là, Ce sont elles dont il faudrait aujourd'hui faire, en y répondant, un moyen d'affermir, de recréer une unité nationale et de rétablir notre souveraineté. Notre souveraineté qu'on a laissée aller. Julian Assange nous le dit clairement. La puissance anglo-américaine et cette oligarchie sont présentes chez nous dans tous les domaines. Elles ont espionné les gouvernements français, elles continuent à le faire. Elles s'en sont pris à nos banques. Mais vous savez, je ne suis pas un défenseur du système bancaire, mais je voudrais une banque de la France, une vraie banque de la France, publique, composée des principaux secteurs, dans son conseil d'administration, des principaux secteurs de notre pays, et défendant un ordre bancaire dans lequel le crédit public permettrait de recréer un véritable service public que les différents gouvernements ont peu à peu grignoté et maintenant dont ils préparent au bénéfice d'intérêts privés l'abolissement progressif. Alors, dans ces conditions, ce qui nous arrive est quelque chose qui est à la fois inadmissible et contre nos propres intérêts. Et ils osent parler d'une âme. J'ai entendu Michel Barnier, j'ai entendu Gabriel Attal parler d'une âme. Et ils osent nous infliger ces paroles. Ce sont des paroles gelées, des paroles qui n'ont pas de sens autre que de propager un narratif, comme disent les Américains, un narratif pour nous manipuler. Pour cela, qu'une réaction est nécessaire. Et je dirais, en termes simples, que cette réaction, c'est à la fois celle d'une politique internationale et d'une politique nationale. Une politique internationale, cela veut dire que la France, au minimum, devrait adopter un cessez-le-feu à Gaza, un cessez-le-feu en Cisjordanie, un cessez-le-feu en Iran, et le défendre. Elle devrait reconnaître l'État palestinien, immédiatement. Elle devrait demander que tous les pays cessent les livraisons d'armes à Israël, qui pratique une politique génocidaire. Elle devrait, en perspective positive, car il faut toujours une perspective positive, un plan Oasis pour toute l'Asie du Sud-Ouest et la reconstruction de la Palestine, la coopération d'Israël imposée et le développement à cet effet de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Iran et de l'Égypte, qui font partie des BRICS, devraient être mobilisés. Et alors oui, on pourrait parvenir, et ce serait difficile, et ça prendra peut-être un certain temps, mais on pourrait parvenir à une logique de paix par le développement mutuel et par la sécurité mutuelle dans toute l'Asie du Sud-Ouest, au Proche et Moyen-Orient. Cela suppose que nous ayons notre place à la réunion de Kazan des BRICS, au moins comme observateurs. Cela suppose que nous cessions la livraison d'armes à l'Ukraine, devenant peu à peu avec l'OTAN, disons, participant au conflit, alors que la Russie change de doctrine nucléaire, alors que les États-Unis continuent à menacer, et alors que les Anglais veulent pousser les États-Unis à livrer des armes de longue portée à l'Ukraine. Il faut arrêter tout cela. Et il faut que la France, même si elle n'est pas capable de le faire à elle seule, se batte pour inspirer cette paix et que vienne l'heure de la reconstruction et que cessent les destructions qui deviennent pour l'Europe en particulier, qui est aux premières loges, un élément de notre crise dans tous les secteurs. Vous savez, Gabriel Attal se vante, ou même Michel Barnier, que la France développe plus que les autres pays européens. C'est 1,1% en termes monétaires, c'est-à-dire en termes physiques, en termes d'économie réelle, c'est beaucoup moins. C'est un recul en réalité, et un recul de toute l'Europe. Et que l'Allemagne fasse pire que nous n'est pas une raison. Mais c'est une raison que l'Espagne reconnaisse l'État palestinien et soit plus courageuse que nous. Enfin, la politique nationale qui doit être en accord avec cette politique internationale. D'abord, il faut une grande mobilisation de production nationale et de productivité. Productivité réelle, physique. Et cette mobilisation doit aller depuis l'université, les grandes écoles, une banque nationale, une vraie banque nationale qui émette du crédit public pour de grands projets, et jusqu'aux industriels, en particulier ceux des petites et moyennes entreprises qui subissent actuellement une crise dont ils ne sont en rien responsables. Et leurs dirigeants l'ont dit clairement. Un grand dessein pour l'éducation nationale et l'instruction civique. Parce que, en effet, dans ce domaine-là, il faut cesser de formater des gens, de faire une hiérarchie des diplômes. Il faut créer un développement mutuel, un développement d'ensemble, dans lequel ce sont les capacités créatrices des enfants et des adolescents qui soient encouragés dans tous les domaines et qui donnent à l'égalité des chances un sens concret qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Un projet aussi pour assurer la sécurité sous toutes ses formes, car notre pays a besoin de sécurité. La sécurité publique, celle d'aller et de venir, et ça on en a parlé, ils en ont parlé, mais quels moyens donne-t-on, quel environnement donne-t-on réellement à ceux qui sont en charge de l'assurer, à la police et à la gendarmerie, alors que leurs enquêtes s'arrêtent lorsqu'on touche à un certain niveau de responsabilité? Car il faut bien le dire, la vraie lutte serait pour la sécurité publique, serait un combat contre les mafias qui contrôlent ce pays et le monde occidental, et aussi qui sont ailleurs. Ces mafias, il y avait des triades en Chine, ces mafias qui opèrent depuis les grandes banques, depuis les services de renseignement, et qui forment ce complexe militaro-financier qui s'appuie sur les gains de tous les trafics. Tout ce trafic que l'Europe nous contraint d'inclure dans notre produit intérieur brut. Trafic de drogue, d'êtres humains, trafic d'armes. Enfin, sécurité sociale, justice sociale. S'il n'y a pas de justice sociale, on voit bien dans notre pays qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de sécurité. Et cela s'exprime par un ordre public reposant sur le service public. Car il faut un ordre public, mais à condition qu'il soit juste, perçu comme tel, et reposant sur un service public, depuis l'hôpital jusqu'à des lieux de détention humains. Et c'est aussi, et surtout, comme fondement, une sécurité économique dans laquelle tous doivent participer, c'est ça le sens de la participation au pouvoir, et pas simplement reçoivent quelque intérêt. C'est le pouvoir qui est nécessaire. Et c'est cette exigence de participer à son destin qui est la chose la plus profonde aujourd'hui et dont ces partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale ne se soucient pas, car ils se soucient à leur propre sort. Et de cette façon, entretiennent un antiparlementarisme dangereux pour le pays. Alors, il faut créer les conditions institutionnelles avec des RICS, de véritables référendums d'initiative citoyenne. Vous savez, il y a un article 11 en France qui permet le référendum, mais pour avoir lieu, il faut le dixième de signataires dans le public, dans le peuple. C'est impossible, c'est beaucoup trop. Donc, il faut vraiment un nouveau souffle institutionnel. Et ce n'est pas en créant la proportionnelle ou pas, c'est en donnant au peuple les moyens de participer réellement au pouvoir. Enfin, pour le dire en un mot, il faut un projet de société, à l'international comme au national, où ce ne soit pas la loi d'un capital fictif, c'est-à-dire de l'argent produit pour faire de l'argent et pas pour faire des écoles, des hôpitaux, des laboratoires. Il faut mettre fin à ce régime de capital fictif qui repose maintenant, puisqu'il ne peut plus tenir par lui-même, sur un réarmement et sur une économie de guerre. Si on ne sort pas de là, on aura un conflit à la fois à l'intérieur de notre propre pays et dans le monde. Donc la priorité devrait être dans une déclaration de politique générale, cette politique de paix par le développement mutuel et par la sécurité mutuelle, à la fois à l'intérieur de notre pays et dans le monde. Et le plus terrible dans ce débat et dans le discours de Michel Barnier, ce n'est pas ce qu'ils ont dit, c'est ce qui manque. Et l'avenir pour nos générations futures, c'est une société de bien-être, de prospérité commune, avec des services publics, avec une banque nationale. Et alors, le crédit sous contrôle du peuple ne sera plus un crédit qui est adressé pour entretenir un système financier par sa nature injuste et portant à la guerre, mais ce sera un crédit qui anticipe ce qui est nécessaire aux générations futures et qui augmente la capacité d'accueil de notre pays et aussi du monde. Parce que les enfants, c'est l'avenir du monde. Et un pays qui a de moins en moins d'enfants et un monde qui a de moins en moins d'enfants, c'est un pays qui pratique, disons-le clairement, un pape l'avait dit, des dirigeants de gauche de l'époque l'avaient dit, un pays sans enfants, c'est une culture de la mort. Et il faut sortir cette culture de la mort et se battre pour une culture de la vie, de la découverte, où, au lieu de s'adapter à une réalité qui devient une réalité destructrice, on explore l'inconnu pour trouver les ressources d'un bien commun pour nous-mêmes et pour les générations futures. Voilà ce que m'inspire le discours de Michel Barnier et il m'inspire surtout de vous demander, d'exiger de vous, c'est pas moi qui exige, hein, ce sont les circonstances telles qu'elles sont, de vous engager en politique et de vous engager auprès de nous à Solidarité et Progrès pour défendre cette cause. Je voudrais encore ajouter, pour que nous réfléchissions ensemble, une très belle phrase, très forte, d'Henri Barbusse, l'auteur du Feu, qui s'était opposé à la boucherie qu'a été la guerre, la Grande Guerre de 1914-1918. Voici ces mots. Tu entendras résonner en toi des échos de grands mots. Méfie-toi des grands mots. Il leur arrive de donner brillamment et bruyamment asile soit à de mauvais instincts, soit à des préjugés. Méfie-toi aussi de ce qui est écrit. Ne crois aucune parole sur parole. Sois le juge de ce que tu lis et ce que tu entends. Méfie-toi des politiciens, méfie-toi des savants spécialistes et des historiens de détail et des documentateurs hypnotisés par les marottes de cas particuliers. Méfie-toi des avocats et des diplomates, et en général, de tous ceux qui cuisinent les faits isolés. Eh bien, j'ai entendu cet après-midi beaucoup de cuisiniers. C'est ce que je vais vous dire en plus.